Nous allons donc commencer ces deux journées par Madame Horowitz, psychogénéalogiste, qui va vous parler de sa spécialité.
Merci. Bien, alors, bienvenue à toutes et à tous. Effectivement, donc, le salon commence avec cette conférence sur la psychogénéalogie. Ça ne va pas? Vous... Là, ça va? Non. Là? Ah bon? Bon, c'est bien. Alors, peut-être rapprochez-vous. Peut-être rapprochez-vous pour entendre mieux. Bon, qui entend bien? Bon, alors, il n'y a que vous. Alors, je pense que ça vient de vous. Alors, certains d'entre vous me connaissent peut-être. Donc, j'ai écrit deux ouvrages sur l'arbre généalogique. Le dernier donc est paru il y a un mois sur le thème donc du temps généalogique qui sous-entend donc en fait les événements familiaux peuvent être tout à fait programmés par l'inconscient familial, hein, c'est-à-dire que lorsque nous arrivons à des âges qui ont été critiques pour nos ancêtres, eh bien il peut y avoir l'émergence d'un symptôme et donc sans que l'on s'y attende. Bien, alors je vais développer ce thème en fin de conférence. Je voudrais tout d'abord tout de même exposer quelques principes donc de la psychogénéalogie, la façon dont je travaille, etc. Alors tout d'abord, eh bien, il faut dire que la psychogénéalogie s'intéresse à l'histoire familiale sur à peu près un siècle. C'est-à-dire que lorsqu'une personne vient en consultation, nous regardons, enfin nous allons analyser l'histoire de sa famille, donc les histoires croisées de la branche maternelle et de la branche paternelle, sur une centaine d'années. Alors, imaginons qu'une personne vienne en consultation et puis soit née en 1950. Eh bien, nous allons regarder son arbre généalogique jusqu'en 1850. Nous remontons donc à peu près sur un siècle, c'est-à-dire jusqu'aux arrière-grands-parents. Alors, les arrière-grands-parents, ce n'est pas si loin. C'est-à-dire que là, les recherches généalogiques, les recherches familiales sont encore tout à fait possibles. En principe, donc, on connaît bien l'histoire de ses grands-parents. On connaît à peu près l'histoire de ses grands-parents. Donc, les arrière-grands-parents, c'est encore dans la mémoire, je dirais, des ancêtres. Voilà, au-delà, effectivement, les ancêtres deviennent des abstractions, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances pour que nous les ayons connus, même étant enfants. Donc, les arrière-arrière-grands-parents, eh bien, c'est une génération qui est, je vous l'ai dit, un petit peu plus abstraite dans notre esprit. Ceci dit, lorsque nous faisons des recherches généalogiques, nous pouvons bien sûr remonter beaucoup plus loin dans le temps, mais là, les informations sont difficilement vérifiables. Elles ne sont vérifiables que pour les données objectives, c'est-à-dire la date de naissance, les prénoms et les noms de famille, ainsi que les métiers qui sont souvent mentionnés sur les actes d'état civil. Bien. Donc voilà, notre base de travail, c'est un arbre généalogique donc sur une centaine d'années. Ça présuppose que nous connaissions donc les 8 arrière-grands-parents, nos 4 grands-parents et leurs frères et sœurs, nos parents et nos oncles et tantes, et puis nos propres frères et sœurs, ainsi que notre cousinage. Alors comment ça se passe pratiquement? Eh bien, en fait, moi je travaille sur une feuille de papier qui est très simple. Je vais vous en donner l'exemple tout de suite. Je la partage, cette feuille de papier, en 4 niveaux. C'est-à-dire que je vais placer donc les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, et puis moi-même et les frères et sœurs. Alors, comment ça se présente? Je vais le faire rapidement. Donc, vous prenez une simple feuille de papier, bon, si possible dans le sens de la largeur. Hein. Bon, là, je vais le faire dans le sens de la hauteur parce que c'est le tableau qui est fait comme ça. Mais... voilà, donc je partage en 4 niveaux. Voilà, alors le premier niveau, ce sera soi-même et les frères et sœurs, dans l'ordre chronologique. Dans le deuxième niveau, mes parents et leurs frères et sœurs. Dans le troisième niveau, mes grands-parents et leurs frères et sœurs. Et dans le quatrième niveau, mes arrière-grands-parents. Alors, à partir d'ici, je vais scinder mon schéma en deux. Pourquoi ? Parce qu'à gauche, je vais avoir la branche maternelle et à droite, la branche paternelle. Alors ici, donc, j'ai moi-même et mes frères et sœurs. Alors, je vais inventer un cas. Imaginons que l'aînée s'appelle Claire, la deuxième Marie, le troisième Bernard, la quatrième Sophie, et puis la cinquième, le cinquième Marcel. Voilà. Donc, je vais noter, imaginons que moi, je sois là, Sophie en quatrième. Eh bien, j'ai placé tous mes frères et sœurs dans l'ordre chronologique. Imaginons que la première soit née en 1950, ici 1952, 1955, 1960, 1965. Imaginons que j'ai une fratrie comme ça sur deux générations avec 15 ans d'écart entre l'aîné et le cadet. C'est possible. Enfin, toutes les combinaisons sont possibles au niveau des systèmes de fratrie. Vous pouvez avoir l'enfant unique, vous pouvez avoir demi-frère, demi-sœur, vous pouvez avoir des fratries à sexe unique, que des filles ou que des garçons, avec beaucoup d'écart d'âge ou très peu d'écart d'âge, des jumeaux, et puis quelquefois 15 ans, 20 ans d'écart entre deux membres de la fratrie. Bien sûr, ça va donner un destin, hein, la façon dont l'arbre généalogique s'est constitué, la fratrie, les écarts d'âge, etc. Tout ça, c'est déjà une destinée. Alors, l'objet de la conférence n'est pas effectivement de développer ce thème, parce qu'en lui-même, c'est un thème qui peut être développé dans plusieurs conférences, mais je dirais que selon la place que l'on occupe dans la fratrie, donc le rang que l'on occupe à la naissance, imaginons donc que là, je sois à la quatrième, je vais devoir regarder qui était quatrième dans les générations précédentes. C'est-à-dire que, est-ce qu'il existait un quatrième ou une quatrième dans la fratrie de ma mère ? Est-ce qu'il existait un quatrième ou une quatrième dans la fratrie de mon père ? Et puis la même chose donc au niveau des grands-parents. Donc comme ça, j'ai une histoire de la place au niveau des générations. Donc il y a une mémoire qui est liée à la place que l'on occupe dans ce système de fratrie. Alors, bien sûr, je peux aussi trouver des systèmes de fratrie où il va y avoir des avortements, des enfants morts-nés, etc., ou des enfants morts en bas âge. Et je vais les noter. Il se peut, par exemple, ici, qu'il y ait un avortement spontané. Donc, au fond, je suis effectivement la quatrième enfant, mais je suis la cinquième conçue. Vous voyez qu'il va y avoir un décalage entre le rang que l'on occupe, en fait, dans la réalité, et puis le rang de conception. Il se peut qu'il y ait un décalage. Donc, les avortements et les enfants morts-nés, je vais les placer sur ce système parce qu'ils occupent une place. Voilà. Et ce n'est pas par hasard qu'un enfant va décéder en bas âge ou je dirais, être quasi éliminé de l'histoire familiale. Là aussi, il y a des raisons. Bien. Alors, là, c'est le premier niveau, c'est mon niveau avec mes frères et sœurs, éventuellement donc les enfants qui ne sont pas arrivés à terme, et puis donc les dates de naissance pour regarder les écarts d'âge. Alors quand je descends d'un niveau, eh bien je suis ici dans la case qui est réservée à ma mère, avec elle-même ses frères et sœurs. Imaginons que ma mère ait deux frères, qu'elle soit par exemple la troisième, alors par exemple Micheline ici, avec Jean et puis Marc. Voilà, donc ma mère est ici, elle occupe la troisième place. Alors, je vais aussi marquer des dates de naissance, imaginons 1925, 1926 et puis 1930.